Bon après-midi, bonjour, merci d'être revenu à cette deuxième journée du Bazar du Libre. Une toute petite annonce, après la conférence, il y aura des pâtes en vente dehors. Et voilà, maintenant je laisse Edzen faire sa conf.
Bonjour tout le monde. Moi je m'appelle Sébastien Dufromentel, Elzen, si vous me croisez sur internet. Et donc je suis là au Bazar du Libre pour vous parler d'auto-hébergement. Et avant de commencer, l'auto-hébergement, ça se passe sur internet. On entend de temps à autre parler des dirigeants d'internet. Et puis toujours la question revient, c'est qui les dirigeants d'internet? Il y a quelqu'un un jour qui a sorti une réponse absolument magnifique à ça, c'est celle-ci. Du coup, je me présente. Moi, c'est Elzen, je suis un des dirigeants d'Internet. Voilà. Donc, je gère un blog qui est auto-hébergé, que vous pouvez aller voir à cette adresse, et puis on me trouve aussi sur d'autres sites. Alors, la petite histoire de fait de poule ici à côté. Les gens pensent souvent, quand il s'agit de faire de l'auto-hébergement, qu'il faut avoir d'abord des connaissances en informatique assez poussées pour pouvoir commencer à faire de l'auto-hébergement. Moi, quand j'ai commencé à m'auto-héberger, j'y connaissais pas grand-chose. Et en fait, les connaissances sont venues au fur et à mesure. Donc c'est quelque chose qui est circulaire, c'est une histoire faite poule, hein. C'est que avoir des connaissances permet de s'auto-héberger, s'auto-héberger permet d'acquérir des connaissances. Et quand on parle de faits de poule, il y a un truc qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas complètement circulaire. C'est que la poule sort de l'œuf, et ensuite la poule pond d'autres œufs. Donc en fait c'est quelqu'un à l'origine qui avait des connaissances, qui m'a encouragé à m'auto-héberger. Donc il y a une poule qui a pondu un œuf et puis il en est sorti une autre poule à la fin, voilà, maintenant j'ai des connaissances et donc je peux faire des confs. Mais voilà, donc je suis ici pour pondre des œufs, pour encourager les gens à s'auto-héberger, et faut pas penser que parce que vous n'avez pas encore suffisamment de connaissances, ça va pas être à votre portée. C'est accessible à tout le monde, c'est une des choses que je voudrais montrer dans cette conf. Donc, un petit programme. Bon, les points habituels, enfin, quand on parle d'à peu près tout et n'importe quoi, les trois questions à se poser, c'est pourquoi faut le faire, qu'est-ce qu'il faut faire et comment on le fait. Donc les trois choses que je vais faire là. Et puis on parle d'auto-hébergement, il y a une question qui revient fréquemment au niveau de la sécurité des données, j'en dirai quelques mots à la fin. Donc on va commencer par le pourquoi. Alors avant ça, pourquoi je suis là au Bazar du Libre pour parler d'auto-hébergement, quel rapport avec le logiciel libre? Alors le rapport avec le logiciel libre, c'est que c'est la même chose. C'est la même notion de liberté. Quand on parle d'Internet, quand on parle de logiciel, on peut réutiliser la même notion qui est la notion de liberté posée par Stallman en 4 points, utiliser, étudier, partager, modifier. Je suppose que tout le monde sait qu'on peut utiliser Internet, ça, il n'y a pas trop de soucis. Même s'il y a certains qui voudraient vous poser des restrictions d'accès, mais enfin ça, c'est un autre problème, mais on a l'habitude. On peut étudier Internet, on peut regarder comment ça marche. Si vous ne savez pas qu'on peut étudier Internet, allez parler aux gens de Theta Neutral qui sont sur l'événement, ils vont pouvoir vous répondre. Je suppose que vous savez aussi qu'on peut partager Internet. Vous avez une connexion chez vous, vous pouvez la partager. Vous pouvez rejoindre un FAI associatif pour amener de l'Internet aux gens. Donc voilà. Sur ces trois points-là, ça ne pose pas de souci. Maintenant, la question de modifier. Quand on parle de modifier un logiciel, qu'est-ce que ça veut dire? Modifier un logiciel, c'est ajouter du contenu dans ce logiciel, c'est ajouter des nouvelles fonctionnalités. Si on se met dans le cadre d'Internet, on va traduire ça par ajouter du nouveau contenu, ajouter des services. Donc mettre des choses en plus dans Internet. C'est précisément ça l'auto-hébergement, c'est amener des nouvelles choses à Internet, donc c'est la liberté de modifier, appliquer à Internet. Donc quand on dit Internet libre, logiciel libre, c'est la même définition, et pour que ça marche complètement, pour exploiter complètement la, la définition de logiciel libre appliquée à Internet, ça passe par de l'auto-hébergement, parce que c'est ça la liberté de modifier. Donc, si ce petit laïus ne vous a pas suffi, on va passer au pourquoi s'auto-héberger. Alors, je pense que tout le monde l'a remarqué, notamment par les températures qu'il fait dans la salle. L'hiver approche. Et comme l'hiver approche, je vais vous parler de chauffage. Donc, imaginez un petit village avec plein de petites maisons éparses, comme ça. Et puis, évidemment, on a l'habitude que chacun ait son chauffage chez soi, c'est normal. Puis pas que les radiateurs, mais alors il y a des radiateurs, il y a des cheminées, il y a des poêles, puis il y a aussi des chauffe-eau, il y a toutes les plaques chauffantes, le four pour faire la cuisine. On a plein d'appareils pour se chauffer, et c'est normal de les avoir chez soi. Je pense que personne me contredira là-dessus. Bah, imaginez maintenant qu'on fait le même village avec une grosse usine au milieu, puis on dit, comme on a cette super grosse usine, on va essayer de faire les choses différemment. On va mettre tous les moyens de chauffage, si j'arrive à passer les slides, voilà. On va mettre tous les moyens de chauffage dans cette usine-là, et puis ensuite, ce sera redistribué vers les différentes maisons. Bah, déjà, une première chose qu'on va se dire, c'est que si on fait ça et qu'on met aussi peu de trucs comme ça dans l'usine, ça ne va pas marcher. Il va falloir en mettre beaucoup plus. Et un des premiers trucs dont on peut se rendre compte, c'est que la quantité de chaleur qu'il va falloir produire dans cette usine pour pouvoir chauffer tout le monde de manière raisonnable va être beaucoup plus importante que ce dont chacun avait besoin pour se chauffer chacun chez soi. On va devoir produire beaucoup plus pour arriver au même résultat. C'est pas le seul problème. Alors on a un autre problème, que évidemment la chaleur, il faut l'amener par des tuyaux, et elle ne fait pas que partir vers les tuyaux, elle part dans d'autres directions aussi, donc il y a de la perte. On va avoir un autre problème qui est que ça uniformise tout, c'est-à-dire que quand tout le monde se chauffait chacun chez soi, il y avait des gens qui avaient des radiateurs, mais il y avait des gens qui avaient des poêles, qui avaient des cheminées. Dans l'usine, ça n'a pas de sens. C'est tout chauffé de la même manière, et on perd une certaine diversité. En plus de ça, s'ils ont vraiment tous les appareils de chauffage, y compris les plaques chauffantes, les fours et tout ça, bah évidemment, pour faire la cuisine chez soi, c'est en pratique. Donc, on peut se dire qu'on va faire ce genre de choses. On leur envoie la bouffe à l'usine, on leur envoie la bouffe froide et ils nous la ramènent chaude. C'est super, c'est génial. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, ça veut dire que les gens de l'usine savent si vous mangez plutôt du poulet ou du gâteau, hein. Ils peuvent faire un fichier de ceux qui sont véganes et pas les autres, entre autres. Si vous regardez un peu, je sais pas si on voit très bien, mais mes histoires de poulet là-bas, on a le poulet qui est envoyé tout seul vers l'usine, et puis il revient dans une assiette avec des frites. C'est cool, ils font de la valeur ajoutée. Vous leur envoyez un poulet, ils vous offrent les frites avec, c'est génial. Sauf que si on réfléchit deux minutes, ça veut dire, d'une part, que l'usine est suffisamment rentable pour qu'ils aient les moyens de vous offrir les frites. Déjà, c'est une information qui peut être intéressante à savoir. Et puis, ça veut dire qu'ils vous connaissent suffisamment pour savoir que vous mangez plutôt votre poulet avec des frites qu'avec des petits pois. C'est une information qui est bonne à avoir. Donc, ce modèle-là, évidemment, quand on parle de chauffage, ça nous paraît complètement aberrant. Alors oui, il y a autre chose aussi, j'ai failli oublier, un autre point. Le jour où l'usine ferme, bah, tout le monde a froid, plus personne ne peut se faire chauffer à manger, ça ne marche plus. Alors, ce modèle-là, c'est exactement le modèle qu'on a avec ce qu'on appelle les GAFAM, donc Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft. On va aller foutre toutes nos données chez eux, et voilà, ça pose exactement les mêmes problèmes. Si on reprend au niveau énergétique, les data centers de Google doivent produire beaucoup plus, doivent consommer beaucoup plus d'énergie que ce qu'on pourrait avoir en ayant chacun ses petites machines chez soi. Alors, il n'y a pas de perte de données sur le trajet, enfin, si ça arrive, mais c'est pas de la perte au même sens que la chaleur qui s'échappe des bios. Par contre, il faut savoir que sur le trajet entre chez vous et les data centers de Google, il va y avoir plusieurs machines qui vont travailler pour vous acheminer les données. Donc il y a une perte énergétique aussi à ce niveau-là, par rapport à ce qui se passe quand on a juste les données chez soi ou on y accède directement juste par un fil. Il y a évidemment tout le problème que je viens d'évoquer de la vie privée, de ce qu'ils connaissent sur vous. Et puis le problème de toute la diversité, c'est que quand vous utilisez leurs outils, pas les vôtres, et vous n'avez pas le choix des outils à utiliser. Les gens qui ont un compte Gmail, par exemple, régulièrement l'interface de Gmail change. Si vous préfériez la précédente, vous n'avez pas les moyens d'y revenir. Donc on a tous ces problèmes-là qui se posent. C'est exactement la même logique et c'est aussi aberrant dans les deux cas pour la chaleur et pour les données. Quelque chose qui serait beaucoup plus intéressant, beaucoup plus efficace, c'est que chacun ait ses petites machines chez soi pour faire ce dont il a besoin chez soi, et que si jamais il y a besoin qu'on communique, que les différentes personnes communiquent entre elles, ce qui peut évidemment, forcément ça peut arriver, bah on aurait juste à les brancher entre elles directement, sans mettre quelque chose au centre. Ce truc-là, c'est très précisément la définition d'Internet. Un réseau dans lequel l'intelligence est en périphérie, et les liens servent juste à relier la périphérie, et ce qu'il y a au milieu, ça doit être un truc bête qui sert juste à faire passer les choses. Donc Internet a été conçu de cette manière-là, et ça devrait être aussi naturel d'avoir son serveur chez soi que d'avoir son radiateur chez soi. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième partie et se demander qu'est-ce qu'on peut mettre sur son serveur, parce qu'on a une machine qui tourne chez soi, il faut bien mettre des choses. Donc, quand on parle de s'auto-héberger, les premières choses auxquelles pensent les gens en général, c'est le web, les mails. Effectivement, ça a déjà été dit plein de fois, mais je vais pas non plus m'étaler dessus, mais évidemment, si vous avez un blog, bah, il est aussi bien chez vous et que les gens viennent le lire chez vous, c'est mieux que les courriers que vous recevez arrivent directement chez vous et que vous puissiez les lire là. Donc ça, on pourra revenir dessus s'il y a besoin, mais a priori, ça pose pas de soucis. On peut installer plein de trucs et juste avec le web, les mails, on peut déjà faire plein de choses. Mais il n'y a pas que ça. Typiquement, quand il s'agit de communiquer, les mails, c'est bien des fois, mais c'est asynchrone le mail. On envoie et puis la personne répondra quand elle aura le temps. Des fois, on aime bien pouvoir se parler en direct. Donc il existe des outils pour ça, pour se parler en direct. Donc des protocoles comme IRC, comme Jabber. Qui permettent d'échanger en direct de la même manière avec quelque chose qui est sur votre serveur à vous et les gens viennent vous parler directement là et voilà. Si vous préférez la conversation audio plutôt que la conversation texte, vous avez Mumble qui s'installe assez facilement, qui marche très bien aussi. Donc voilà, il y a plein de manières de communiquer différentes et avoir un serveur chez soi, ça peut permettre de faire ça. Autre chose, avoir un serveur chez soi, un serveur c'est un ordinateur, il a un disque dur, vous pouvez mettre des données dessus. Toutes les données typiquement que vous iriez mettre, on ne sait pas trop où dans les nuages, vous pouvez les laisser chez vous et faire en sorte de pouvoir y accéder de chez vous. Un truc intéressant quand on a un disque dur, c'est qu'on peut s'en servir pour stocker des choses, en particulier on peut s'en servir pour faire des sauvegardes. Vous avez votre machine de tous les jours que vous trimballez avec vous, vous avez votre serveur qui reste chez vous, vous pouvez faire une copie de ce qu'il y a sur le serveur sur votre machine de tous les jours et réciproquement. Comme ça, s'il y a une des deux machines qui tombe en panne, vous avez toujours les données ailleurs. Donc c'est un usage qui peut être assez intéressant. Autre chose, quitte à avoir des données, vous pouvez aussi utiliser des outils de gestion de version, de travail collaboratif, mais pas que, des trucs qui vont vous permettre d'archiver, de voir la progression de certaines choses. Enfin, ça peut être très pratique. Je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails là-dessus, mais voilà, on peut faire plein de choses autour des données. Une chose importante autour des données aussi, c'est qu'on peut les partager. Vous avez des données sur votre ordinateur qui tournent en permanence. Vous pouvez vous en servir pour... vous pouvez les diffuser aux autres gens. Alors, bien sûr, je parle ici de données que vous avez le droit de diffuser. Donc, si vous allez sur les réseaux pair à pair, vous pourrez diffuser, par exemple, la vidéo de cette conférence, qui sera en CC BY-SA, si je ne me plante pas. Donc, vous avez des tas de contenus légaux qui sont super intéressants pour tout le monde. Simplement, il faut qu'il y ait des gens pour les diffuser, sinon ça ne sert à rien. Donc, vous pouvez vous servir de votre serveur pour faire ça. Vous pouvez aussi vous servir, vous avez des ressources de stockage, vous avez aussi des ressources de calcul. Il existe un certain nombre de projets qu'on groupe généralement par l'application qui s'appelle Boeing, qui est un outil de calcul scientifique. Et c'est plein de projets différents, de projets menés par des équipes de recherche. Et leur manière de fonctionner, c'est que les gens qui sont volontaires, qui veulent rendre service, installent Boeing sur leur ordinateur et leur ordinateur utilise ces capacités de calcul, celles qui servent à rien, c'est-à-dire que si vous vous mettez à faire des choses qui consomment, il va mettre Boeing en pause le temps que c'est vous qui avez la priorité, évidemment. Mais ça peut servir à contribuer à plein de recherches scientifiques dans plein de domaines. Vous avez des recherches de planètes, des recherches sur le climat, des maths, de la médecine. Il y a plein de choses qui sont super intéressantes auxquelles vous pouvez contribuer juste en ayant une machine qui tourne en permanence. Donc c'est plutôt sympa. Alors, on parle aussi de s'amuser avec serveur. Quand on dit s'amuser, le premier truc auquel on pense, ce sont les jeux. Évidemment, enfin, si vous avez l'habitude de jouer en ligne avec vos amis, ça vous est peut-être déjà arrivé de vouloir vous connecter à un moment, vous allez sur les serveurs officiels du jeu, puis vous essayez de jouer ensemble, sauf qu'il y a tellement de monde sur les serveurs officiels que ça rame. Bah, vous mettez juste une version du jeu qui vous intéresse sur votre machine, vous venez jouer chez vous, et puis ça marche bien, il y a que vos amis. Donc ça passe. Sauf si vous avez 70 milliards d'amis, mais ça se saurait. Voilà. Donc, quelques exemples de jeux ici, il y en a d'autres. Hein. Pas que des jeux libres d'ailleurs, il y a un certain nombre de jeux qui ne sont pas libres, mais pour lesquels pourtant on peut mettre un serveur qui tourne chez soi. Donc, voilà. Mais évidemment, on est au bazar du libre, je parle des trucs libres en premier. S'amuser peut vouloir dire d'autres choses. Typiquement, si votre ordinateur principal c'est un ordinateur portable que vous trimballez avec vous, et que donc vous n'avez pas super envie à chaque fois que vous rentrez chez vous de rebrancher les enceintes, de rebrancher le vidéo proche, tout ça, vous avez un serveur sur lequel vous avez vos données, typiquement vos films, votre musique, vous mettez des enceintes dessus, vous mettez un vidéo projecteur dessus, vous pouvez vous en servir pour faire une plateforme de salon, une plateforme média, pour regarder les choses directement depuis votre serveur. Ça peut être un usage aussi. Donc, on peut se servir d'un ordinateur qui va tourner pour faire énormément de choses. La seule limite, en fait, c'est l'imagination. À partir du moment où on a une idée, on peut regarder comment la mettre en place. Maintenant, on a parlé du pourquoi, on a parlé du quoi, on va parler du comment. Donc on va un peu attaquer l'intérieur des choses. Alors il y a peut-être des gens dans la salle qui étaient à l'atelier Brick hier. Donc, spoiler, je vais poser un certain nombre de questions de comment on fait. Presque à chaque fois, vous pourrez me répondre avec une brique. Donc voilà, la brique Internet, un projet super là-dessus, mais on en reparlera après. Donc, pour commencer, il va vous falloir une machine qui va tourner à peu près en permanence. Ce n'est pas nécessaire pour tous les usages, notez. Typiquement, un truc auquel on ne pense pas forcément, un serveur mail n'a pas besoin d'être allumé en permanence. Le protocole d'envoi de messages électroniques est fait de telle sorte que si votre serveur n'est pas allumé, le serveur en face va réessayer un peu plus tard. Et donc, à partir du moment où vous êtes allumé suffisamment fréquemment pour que les autres puissent se rendre compte, vous n'avez pas besoin que la machine tourne en permanence. Même chose pour la messagerie instantanée. Pour qu'on puisse venir vous parler, vous avez besoin d'avoir la machine allumée seulement quand vous êtes devant. Sinon, ce n'est pas forcément la peine. Mais d'une manière générale, on peut considérer qu'on va laisser un serveur tourner en permanence, c'est à ça que ça sert, pour qu'on n'ait pas besoin de l'allumer, de l'éteindre tout le temps. Donc il faut que ce soit une machine qui tienne la route. Après, un minimum robuste, ça n'a pas besoin d'être une machine qui a des capacités absolument énormes. Pour faire tourner un serveur mail, ce truc est beaucoup trop puissant. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de ressources absolument démentielles. Mais il faut quand même... Elle va tourner en permanence chez vous, c'est le principe de l'auto-hébergement, donc il faut au moins que ce ne soit pas trop bruyant. Il ne faut pas que ça vous consomme trop. Donc, comment faire ça ? Avec une brique. Donc la brique internet, c'est ce petit boîtier là qui vous permet de, enfin qui est fait sur mesure pour faire serveur, qui consomme peu, qui ne fait pas de bruit et qui juste marche bien. Il y a d'autres choix possibles. Vous avez d'autres petits ordinateurs type Raspberry Pi et compagnie que vous pouvez utiliser. Vous avez plein de petits ordinateurs à bas coût comme ça qui peuvent être pratiques. Une solution que j'aime bien, enfin c'est celle que j'utilise chez moi, vous pouvez faire du recyclage. Vous prenez un ordi portable qui a l'écran ou le clavier cassé. Du coup, comme ordi portable, ça ne marche plus. Bah, ça vous fait un super serveur. Plus, ça a une super valeur ajoutée, c'est qu'il y a une batterie dessus. Donc le jour où il y a une coupure de courant chez vous, bah, le serveur ne s'éteint pas. Le temps que le courant se rétablisse, vous n'avez même pas besoin de le rallumer après. Donc voilà, n'importe quelle machine peut faire l'affaire. On peut faire avec les moyens du bord, ça marche très bien. Maintenant, sur cette machine, il va vous falloir mettre un bon système. Donc un système un minimum sécurisé, évidemment. Enfin, on va reparler de sécurité après, mais voilà. Quelque chose que vous allez savoir utiliser. Parce que le but, c'est que vous gériez vous-même votre serveur. Donc c'est très important que vous sachiez vous en servir, forcément. Évidemment, un système libre, c'est mieux. Ça, c'est pas au bazar libre que je vais vous faire un cours là-dessus, hein, tout le monde est au courant. Donc, ce qu'on a comme choix, tous les systèmes libres font l'affaire. Tous les systèmes libres ont dans leur dépôt tous les outils dont il y a besoin. Donc, que vous prenez Debian, Ubuntu, Magea, FreeBSD, Arch Linux. Bon, sur le côté simple, Arch Linux, mais voilà. Donc, tous les systèmes libres vont vous permettre de faire ça. Alors, sur la brique, puisque je vous dis la réponse, c'est la brique à chaque fois. Le système qui est installé dessus s'appelle Why No Host, donc quoi toi pas héberger. Donc c'est une surcouche à Debian en fait, qui est spécialisée pour rendre l'utilisation d'un serveur, donc pour rendre l'installation des différents services accessible à tout le monde. Donc c'est fait pour que n'importe qui puisse s'en servir. Donc quand je disais qu'il n'y a pas besoin de connaissances techniques, on peut creuser, on peut aller voir comment ça marche, on peut acquérir des connaissances, mais vous prenez juste une brique internet avec son Why You Know Us dessus, ça va être vraiment accessible à tout le monde sans qu'il y ait besoin de connaissances particulières. C'est ça qui est super intéressant dans ce projet. Alors, maintenant, l'accès à internet, ça va demander de parler un peu de comment ça marche internet. Donc, mon joli petit train ici. Internet fonctionne à peu près comme un train. C'est-à-dire que vous avez un réseau physique, ce sont les câbles, ou les fibres à partir de... ça commence, qui correspondent à peu près au réseau physique du train, c'est-à-dire les rails. Dessus, vous avez ce qu'on va appeler la couche IP. C'est le protocole bas niveau qui sert à transférer les informations. Si vous regardez, les rails ont une certaine forme. Si vous regardez tous les trains, quelle que soit la forme du train, la partie du bas avec les roues qui vont sur les rails est tout le temps la même. C'est ça qui correspond à la couche IP. Après, par-dessus cette couche IP, vous faites passer des trucs qui ont des formes radicalement différentes, qui vont être du mail, du web, du pair-à-pair, du n'importe quoi, et qui vont être... On peut faire passer plein de protocoles différents parce qu'on a les deux mêmes bases que sont la couche physique et la couche IP. Maintenant, cette image donne une idée fausse de la chose, parce que si on regarde le truc comme ça, on a l'impression, on voit ici une locomotive avec plein de trucs derrière. Donc on a l'impression d'un train qui diffuse plein d'informations. En fait, Internet fonctionne plutôt de cette manière-là, c'est-à-dire des trains qui n'ont qu'une seule voiture, et c'est plein de petits paquets. La façon dont fonctionne Internet, c'est des tas de petits paquets qui sont envoyés. Donc des petites quantités d'informations, et il faut plein de paquets pour reconstituer une page web, par exemple. Alors les trains, pour savoir où ils doivent aller, suivent ce qu'on appelle l'adresse IP. Donc une adresse IP, c'est quelque chose qui sert à repérer votre machine sur le réseau. Et bah, on peut tout de suite voir qu'il y a moyen de poser des gros soucis sur la façon dont ça fonctionne, comme ça. Donc déjà, si vous n'avez pas une adresse IP fixe, c'est-à-dire si l'adresse IP de votre machine change régulièrement, le train qui est en route pour un endroit, et puis on lui dit « Ah non, maintenant, il faut aller là. » Enfin, voilà. On peut se perdre super facilement. Donc avoir une adresse IP qui n'est pas fixe, évidemment, ça pose des gros problèmes dans les possibilités d'accès à votre machine. Donc pour faire un serveur, c'est pas génial. Vous pouvez aussi avoir certains protocoles qui vont être bloqués, ou au moins les ports par lesquels passent ces protocoles. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous avez une box chez un opérateur commercial, de base, la box qui reçoit si elle reçoit des messages de l'extérieur, elle ne les transmet pas. Donc il faut aller configurer la box pour lui dire « si tu reçois tel type de message, tu l'envoies à ma machine parce que c'est mon serveur qui doit répondre ». Alors, chez certains fournisseurs d'accès, ça se fait relativement bien. Il y a juste à aller configurer la chose et puis ça marche. Chez d'autres, il y a certains trucs qui vont être irrémédiablement bloqués. L'opérateur considère que vous n'avez pas le droit de faire de choses. Typiquement, Orange bloque complètement l'envoi de mail. Vous ne pouvez pas envoyer de mail de chez vous juste par la box Orange. Alors, il y a une solution, évidemment, pour régler ce genre de problème. C'est... la brique. La brique Internet fonctionne avec ce qu'on appelle du VPN. Donc du VPN, c'est un tuyau chiffré qui va passer sur votre connexion existante, donc à travers la box de l'opérateur commercial, pour aller vers un serveur VPN qui est ailleurs, qui n'a pas les mêmes contraintes. Et comme c'est un tuyau chiffré qui passe, l'opérateur commercial ne voit pas ce qui passe dedans. Vous voyez, il y a un tuyau, donc on ne voit pas la tête du train qui est dedans. Et ça fait qu'il ne peut pas vous bloquer. Et l'un des énormes avantages de la brique, c'est que ça outrepasse tous ces problèmes-là sans que vous ayez rien à configurer, puisque vous branchez la brique, elle se connecte au serveur VPN, et ça marche de manière transparente. Alors, du VPN, il faut le prendre chez quelqu'un de confiance, évidemment. Vous avez donc toutes les associations de la FFDN, donc la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif, qui vont vous proposer du VPN avec la brique Internet et qui vont vous permettre d'avoir un accès à Internet neutre, c'est-à-dire sur lequel vous pouvez faire plein de choses et notamment vous auto-héberger. Pas que ça, évidemment, vous pouvez aussi prendre directement votre connexion de base chez ces gens-là. Donc ça marche très bien. Alors ici, on est à Toulouse, donc c'est les gens de Theta Neutral qu'il faut aller voir, parce que c'est un paquet de petites associations locales. Et un des trucs qui sont géniaux avec le fait que ce soit des petites associations locales, c'est que quand vous adhérez, vous prenez un abonnement chez eux, ça veut dire que vous êtes membre de l'association, vous savez ce qui se passe. Vous êtes entre gens que vous connaissez, à qui vous pouvez avoir confiance. Donc, vous faites partie de la chose, et c'est pour ça que vous prendriez un VPN chez des gens que vous connaissez absolument pas, dont vous ne savez pas ce qu'ils font, pour vous auto-héberger parce que vous avez besoin d'outrepasser une box. Si vous ne savez pas ce que les gens au bout font, ça peut être problématique. Là, ici, si vous venez chez un fournisseur d'accès de la FFDN, vous serez entre gens que vous connaissez et ça, vous êtes sûr que ça va marcher comme il faut. Voilà. Le comment. Deux questions qui restent à se poser. C'est mieux d'avoir un nom de domaine. Oui, parce que le nom de domaine, c'est le truc qui sert à rendre une adresse IP. Enfin, je le dis très mal, hein, mais qui sert à rendre une adresse IP humainement intelligible. C'est-à-dire que si on doit retenir les 88.62.6.238, par exemple, ça va pas être, enfin, c'est pas facile à retenir. Un nom de domaine, c'est un truc que tout le monde arrive à retenir facilement, par exemple google.com.
Celui-là, il est déjà pris, mais il y en a d'autres, d'autres sympas. Donc, il va, si vous voulez que votre machine soit atteignable depuis l'extérieur, c'est une bonne idée de prendre un nom de domaine à vous. Ça se réserve annuellement. Et puis, vous associez votre nom de domaine à votre adresse IP. Et comme ça, les gens vous trouveront de cette manière-là. Alors, vous pouvez le réserver vous-même. Ça coûte entre 5 et 15 euros par an. Donc, ce n'est pas une dépense énorme. Après, ça demande un peu de configuration pour être sûr que le nom de domaine pointe au bon endroit. Si vous voulez éviter d'avoir cette configuration à faire et d'avoir à payer le nom de domaine, la réponse est la brique. Donc la brique Internet, les gens qui gèrent la brique Internet, enfin qui créent la brique Internet, ont réservé quelques domaines qui sont spécialisés pour permettre aux gens qui s'auto-hébergent avec la brique d'utiliser ces noms de domaine-là. Donc ça marche relativement bien. Après, un des points noirs, éventuellement, c'est que votre serveur va tourner chez vous, c'est-à-dire qu'il va dépendre de votre débit, du débit que vous avez chez vous. Et typiquement, quand on est derrière une ligne ADSL, donc ADSL, je rappelle, ça veut dire asynchrone. Ça veut dire un bon débit en descendant, donc pour récupérer les choses du reste du monde vers chez vous, mais un débit montant, donc un débit d'envoi de données vers le reste du monde qui va beaucoup être beaucoup moins bon. Alors, là, ici, la réponse serait pas la brique, parce que la brique, c'est pas magique. Donc la brique ne va pas, c'est le point pas satisfaisant, la brique ne va pas faire marcher mieux une connexion existante. Enfin, ça peut agir sur les débits dans certains cas, mais c'est pas une problématique d'auto-hébergement, pour en parler ailleurs. Voilà, ça va pas faire magiquement augmenter votre débit. Par contre, un truc qui peut être intéressant, c'est de s'intéresser à d'autres technologies que l'ADSL. Theta Neutral, ici à Toulouse, par exemple, fait beaucoup de liens radio longue distance. Donc c'est quelque chose qui a un débit un peu plus symétrique, donc c'est plus intéressant. Si vous avez là où vous êtes un accès par fibre, alors les assos de la fédération de la FFDN ne font pas encore de fibre. C'est un des chantiers en cours, mais c'est assez compliqué pour tout un tas de raisons. Mais en attendant, vous pouvez prendre une fibre chez un gros opérateur commercial type Orange et puis faire passer du VPN dessus et ça va vous permettre d'avoir des bons débits. Après, faut pas non plus se dire que ça va être trop catastrophique. Si c'est juste pour votre blog, vos mails, il n'y a pas de souci. Ça va, vous allez pouvoir naviguer, enfin les gens vont pouvoir naviguer dessus sans difficulté. Si vous avez beaucoup de vidéos, de flux vidéo à diffuser, la limite de débit montant peut être problématique. Pour l'usage de base de monsieur, madame, tout le monde, un DSL peut suffire. Enfin, mon blog à moi est derrière une ligne ADSL et ça marche quand même assez bien. Maintenant, donc, quelques mots sur la sécurité. Salut Gandalf. La sécurité des données, une question qui revient fréquemment dans les conférences que je fais sur l'auto-hébergement, c'est oui, mais les gens de Google, par rapport à moi, c'est des brutes en sécurité. Donc ouais, peut-être qu'eux, ils vont utiliser mes données, effectivement, mais peut-être qu'eux vont les utiliser et qu'ils vont mieux les protéger du reste du monde. Donc c'est peut-être, d'une certaine manière, plus intéressant que j'aille les voir. Je consens qu'ils se servent de mes données pour, en échange de leur protection vis-à-vis du reste du monde. Alors, ça peut paraître pertinent comme ça. En fait, si on creuse, ça ne l'est pas tant que ça. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire ici. La première chose à se poser, c'est quand vous parlez de protéger vos données, vous parlez de les protéger de qui ? Donc, super question. Qui faut-il empêcher de passer ? Donc, de qui on veut protéger les données ? Alors, on peut vouloir protéger ces données des méchants pirates, donc Long John Silver, voilà, je pense que tout le monde connaît l'île au trésor. Alors, le colonel Milan, pour les gens qui ne savent pas, c'est le personnage joué par Blier dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, que je vous conseille vivement de regarder si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est un film qui est, surtout en ce moment, très, très intéressant à regarder. Donc, les méchants services de renseignement qui veulent récupérer vos données aussi. Alors, vous avez le Balrog, donc une personne qui vous en veut, qui vous en veut à vous personnellement. C'est pas la même, forcément la même problématique. Puis bon, on se dit Obi-Wan Kenobi, hein, comme d'habitude. Alors, si on regarde la situation chez les pirates, donc c'est des pirates, donc j'ai mis des bateaux. Hein. Alors, ouais, peut-être effectivement que les gens de Google vont être des brutes en sécurité par rapport à vous et qui vont mettre beaucoup plus de canons sur votre machine. Maintenant, imaginez que vous êtes un pirate sur son bateau. Vous voyez ici l'énorme galion Google chargé d'or et super bien protégé avec tous ses canons. Puis vous voyez la petite barque du gars auto-hébergé à côté. Lequel vous allez attaquer ? Non, pas... Le point important, c'est que peut-être que votre serveur sera moins sécurisé d'une certaine manière parce que vous n'avez pas tous les techniciens de Google pour vous faire des trucs géniaux, mais il y a tellement moins de choses à voler chez vous que ça ne va pas être intéressant d'attaquer quand même. Ce qui est intéressant pour les pirates, c'est de récupérer des tas de données d'un coup. Et si on veut récupérer des tas de données d'un coup, le seul moyen de faire, c'est d'attaquer les endroits où il y a des tas de données, donc les endroits où c'est centralisé, donc Google. Et votre serveur auto-hébergé va être intéressant pour pas grand monde. Donc, on vire une grande quantité d'attaques comme ça. Et puis, faut pas se leurrer non plus, même les brutes en sécurité de chez Google ne font pas que des trucs absolument géniaux. On a régulièrement des histoires de sites, enfin de Google, de Facebook, de machin, où qui a été piraté et où il y a plein de mots de passe qui ont fuité et tout ça. Enfin, ça arrive régulièrement dans la presse. Donc, même en mettant vos données chez Google, vous avez l'assurance que Google va servir et vous n'avez pas la garantie que les autres vont pas le faire. Donc, c'est pas forcément un bon calcul à ce niveau-là. Si on s'intéresse aux services de renseignement, alors le principe est le même, on change un peu d'image. Le principe est le même, c'est-à-dire que vous avez Google, ça va être un énorme immeuble où il y a plein d'appartements qu'on va pouvoir écouter, et sinon vous avez votre petit pavillon. Alors il y a une objection qu'on peut être fait pour dire que certaines personnes font pour dire que l'auto-hébergement est moins bien. Qui serait de dire que, effectivement, si vous mettez un sous-marin d'espion dans la rue, puis ce qui intéresse les services de renseignement, c'est moins les données que les métadonnées, c'est-à-dire qui parle à qui, etc. Donc ce qui va les intéresser, ça va être de regarder les gens qui vont rentrer chez vous. Alors vous avez des gens qui vont vous dire comme ça, s'ils regardent juste le hall de l'immeuble, ils voient une personne entrer et ne savent pas dans quel appartement il va. Alors que s'ils rentrent dans votre maison, ils savent que c'est forcément pour vous. Donc ouais, après, les services de renseignement, ils ne restent pas dans la rue. Ils font plus que regarder qui rentre et qui sort. Et ça va leur demander effectivement un poil plus de boulot de savoir qui est allé chez qui précisément, mais ils vont arriver à avoir cette information. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la problématique est la même. Ils peuvent surveiller, ils peuvent faire de la surveillance de masse si tout est au même endroit. À partir du moment où il faut aller surveiller énormément de machines toutes différentes les unes des autres, ça demande tellement plus d'efforts qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent toujours vous surveiller une personne en particulier, si cette personne est, pour une raison ou pour une autre, a des raisons d'être suspecté, on va faire l'effort d'aller la surveiller. Mais on ne peut pas surveiller tout le monde si tout le monde s'auto-héberge. La surveillance de masse est quelque chose qui n'est rendu possible que par le fait qu'il y a une énorme concentration de données chez Google, chez Facebook, chez des gros opérateurs qui ont à 4 la quasi-totalité de la France, ce genre de choses. Donc, le décentraliser, s'auto-héberger, avoir des petits fournisseurs d'accès Internet associatifs, c'est une très bonne réponse contre la surveillance de masse, notamment. Alors maintenant, on a le problème de la personne qui vous en veut à vous personnellement. Donc pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais, je traduis à la hache, donc ça vient d'une BD en ligne qui s'appelle XKCD, que je vous conseille vivement aussi. Alors, sur la première image, là, on dit ce qui se passe dans l'imagination des geeks de la crypto. Son ordinateur est chiffré. On va devoir monter un, un super calculateur, un million de dollars pour réussir à le craquer. Ah non, c'est pas possible, c'est du RSA 4096. Mince, on va pas y arriver. Ça, c'est l'imagination. Dans la pratique, ça donne plutôt... son ordinateur est chiffré, tu le tapes dessus avec une clé à molette à 5 dollars jusqu'à ce qu'il te donne le mot de passe. Ok, ça marche. C'est peut-être un peu pessimiste quelque part, mais si une personne vous en veut et veut accéder à vos données, la question à se poser, c'est pas comment votre machine est configurée et comment elle est protégée. Parce que ce qu'on va attaquer en premier lieu, ça va pas être la machine, ça va être vous. Ça va être vous la faille. Alors, tous les méchants sont pas méchants à ce point-là, ils vont pas forcément tous vous taper dessus. D'où la réponse D, Obi-Wan Kenobi. Voilà, donc les gens qui veulent accéder à vos données passent par de l'ingénierie sociale et ce genre de choses, donc pour essayer de vous convaincre ou des choses comme ça. Donc, s'auto-héberger, même si vous n'êtes pas brut en sécurité comme les gens de chez Google, grosso modo, ça ne va pas être pire. C'est le point que je voulais dire, parce que la faille principale, c'est pas à quel point vous êtes une brute pour configurer votre machine. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire ici. Donc maintenant, si vous avez des questions, ça va être à vous.
Vous n'avez pas d'intérêt à hacker monsieur tout le monde. Pourtant, ils font ça pour vendre la possibilité d'envoyer des spams par email, pour faire des proxys pour leur botnet et des trucs comme ça. Alors, ils ont intérêt à hacker monsieur tout le monde plus que Google.
Effectivement, il y a pas mal de pirates qui vont faire des choses comme ça, c'est-à-dire essayer de prendre le contrôle à distance sur les machines pour avoir un réseau de machines à disposition. Mais il n'y a pas besoin d'une sécurité spécifique contre ce truc-là. Tu utilises un système libre, tu fais tes mises à jour, tu ne fais pas trop de conneries avec, tu as très peu de risques là-dessus. Donc, les réseaux de bonnets et compagnie, c'est typiquement les machines qui sont encore sous Windows XP, qui n'est plus mis à jour, sans antivirus et tout ça. Ça va intéresser les pirates parce que ça va être facile d'en prendre le contrôle. Un serveur qui est sous Debian, qui est mis à jour régulièrement, il n'y a pas de souci. Donc c'est la question au niveau de la sécurité, c'est contre quoi tu veux te protéger, mais de base, c'est aussi est-ce que tu as l'intention de faire des bêtises ou pas. Et si tu laisses ta machine dans son état de base, grosso modo, elle est déjà suffisamment sécurisée de base pour ce genre de cas, en tout cas. Modo, oui, ils arrivent en retard. Après, pour perdre des mails, vraiment, il faut avoir dépassé les 5 jours d'indisponibilité. Donc, ça va quand même.
Oui. Du retard. Oui. Donc, le fait de pouvoir s'auto-héberger à plusieurs, de pouvoir travailler en A2 ou A3, ça peut être sympa là-dessus. Et l'autre truc, c'est tu parles de la brute, tu parles de la maison. Est-ce que tu as déjà fait des comparaisons de coûts entre s'auto-héberger à la maison sur un petit serveur versus louer une machine
Les comparaisons de quoi, tu dis ?
De coûts. Puisque la comparaison, ce sera la même, mais c'est moins de clients, c'est pas chez toi, c'est une machine qui est surveillée, t'as des backups.
Il faut avoir confiance envers les gens du data center. Après, niveau coût, non, j'ai pas spécialement regardé. Enfin, moi, d'une manière générale, ça me paraissait tellement naturel d'avoir mon serveur chez moi que je l'ai laissé. Après, ce que tu dis sur le fait de s'y mettre à plusieurs est très intéressant. Et effectivement, c'est un point que j'aurais pu davantage aborder. Bon, ça me paraissait peut-être pas le plus important pour cette conférence, mais Ça peut être vachement intéressant de se mettre à plusieurs et de faire des choses à plusieurs. Moi, je suis de Lyon, enfin, je viens de Lyon là, pour cette conférence. Et en ce moment, à Lyon, on est en train de monter un hébergeur associatif. Donc, on est quelques personnes là-dessus. On est en train de se mettre en association sur à peu près le même modèle que les gens de la Fédération FDN pour l'accès Internet. C'est-à-dire qu'on fait une petite structure locale et on va juste rester entre gens qui se connaissent. Et ça, c'est une bonne réponse pour pas mal de points. C'est qu'on est à plusieurs et on peut se filer un coup de main les uns les autres et on peut se regarder les uns les autres. Donc, monter des petites associations, des petites structures comme ça, c'est effectivement une très bonne manière d'arranger les choses, parce que vous n'êtes pas tout seul dans votre coin avec votre machine, et ça peut permettre de faire des choses sympas aussi. Donc je vous encourage effectivement, si vous avez le temps, si vous avez la motivation, à regarder ce genre de choses. Essayez de monter des petits hébergeurs. Je sais que c'est dans les cartons dans plusieurs endroits, donc il y a un mouvement en ce moment qui est en train de prendre un peu d'ampleur d'hébergeurs associatifs, que ça peut être intéressant de se poser la question de le faire ici. Après, voilà. C'est important que ce genre de choses reste local entre personnes qui s'y connaissent. Donc moi, comme je ne suis pas du tout de Toulouse, ça ne va pas être à moi de vous donner des billes là-dessus, parce que c'est entre gens d'ici que vous devez faire les choses. Je peux vous parler de ce qu'on fait à Lyon, mais je ne peux pas trop vous parler de ce qui se fait à Toulouse, ce n'est pas chez moi. Voilà.
Je vais rebondir sur le point que tu abordais concernant le coût par rapport à l'auto-hébergement. Donc ce n'est pas du tout une réponse globale, c'est ma simple expérience. J'ai fait le choix de prendre une location dans un grand data center. Actuellement, le coût est de 30 euros mensuel TTC. Donc effectivement, on est sur des coûts qui sont très similaires, semble-t-il, au maintien du matériel chez soi en termes d'investissement matériel, d'amortissement et d'électricité derrière. Et de bande passante, lorsqu'on a la chance d'avoir la bande passante qui permet de le faire. Donc la réponse, finalement, c'est effectivement, c'est les acteurs locaux qui vont nous permettre d'agréger à la fois des services de fournisseurs d'accès à Internet, peut-être, et également de petits data centers dans lesquels on va pouvoir mutualiser les coûts et les savoir-faire.
Alors, pour.
Pardon, j'ai une question.
Ouais, je vais juste compléter la comparaison avant, que tu viens de donner le prix pour un data center. Une brique Ethernet, c'est une machine qui fait 2-3 watts, enfin qui consomme quasiment rien, à peu près. Voilà. Et alors le coût de la brique elle-même, achat, ça va être entre 60 et 80 euros. Ce qui va par contre coûter, c'est que si vous prenez un abonnement VPN, il faut le prix du VPN, mais il peut vous servir pour un fameux tas d'autres choses. On pourra parler de neutralité du net aussi, si vous voulez, mais l'abonnement VPN, les assos de la FDFDN vous le font aux alentours de 7 euros par mois en moyenne. Voilà.
Eh bien, merci. Tu viens de répondre à ma question qui était effectivement concernant le VPN et ce coût ajouté et donc cette possibilité de pouvoir faire passer grâce à ce tuyau les services que l'on souhaite avoir chez soi ou alors dans des associations. Effectivement, donc la fédération va proposer ce service.
Pas la fédération elle-même, c'est les membres de la fédération. La fédération elle-même ne fait pas grand-chose en fait. Elle fait des recours en justice, mais à part ça.
Et donc, du coup, vient une autre question rapidement, mais comment pouvoir faire le lien au niveau des DNS ? Donc, au niveau du nom de domaine, et donc l'hébergement qui va avoir lieu derrière ces petits acteurs locaux. Chacun va avoir son IP fixe. Donc, les sorties se feront sur IP fixe.
Oui.
Le VP là-dedans, il sera où ? Il y a quelques une brique encore.
J'ai pas trop compris la question. Est-ce que tu peux.
Pour faire l'hébergement total, il nous faut une IP publique.
Oui.
Cette IP publique, elle est déclarée, elle est déclarative. Elle va être soit au nom de chacun, soit au nom des associations.
Oui.
A-t-on encore besoin de VPN du coup ?
Bah, le VPN. Alors, si tu as une association, si vous avez une association qui fait de l'hébergement local, ça va être ses IP à elle. Dans ce cas-là, il n'y a pas forcément besoin. Enfin, faut que cette association-là ait un bon accès Internet, avec pas de souci dessus. Et là, dans cette configuration-là, pour l'hébergement, il n'y a pas besoin du VPN. Si c'est pour avoir ta machine chez toi, là, le VPN va te servir parce que c'est ton VPN qui va t'amener potentiellement ton IP fixe. Enfin, ton IP publique, ce sera celle du VPN. Donc voilà. Ça dépend de si tu es dans la situation j'ai ma machine chez moi, ou si tu es dans la situation on se met en petit groupe et on fait des choses ensemble.
D'autres questions ?
Oui, donc juste une petite question, effectivement, vous expliquez qu'au niveau de la sécurité, il n'y a pas besoin de s'inquiéter autre mesure. On peut mettre les points dans le groupe, par exemple, à installer une fake Google, ce genre de choses, on branche la brique, il y a de l'accès VPN, et c'est tout.
Alors, pour la question pratique de ce qu'il y a sur la brique, c'est pas moi qu'il faut les poser, je crois qu'on a un spécialiste dans la salle, donc vous pouvez lui passer le micro, il va répondre. Sinon, sur un ordinateur que tu gères toi-même, de toute façon, des trucs comme Fail2Ban, c'est intéressant de les installer. Après, c'est pas particulièrement compliqué. Tu l'installes, tu l'actives, et ça se fait relativement simplement.
Oui, donc sur la brique Internet, on installe Fail2Ban avec toi, avec direct. Donc il n'y a pas besoin de se poser ces questions.
Je m'en doutais, mais je préfère que ce soit toi qui confirme.
Je profite que j'ai le micro, comme ça je donnerai une réponse tout de suite. Tu as parlé tout à l'heure de mise à jour,
oui.
De la problématique de faire une mise à jour sur